Aujourd'hui dimanche, le Seigneur accepte à nouveau d'écouter nos chants et nos prières. Non seulement il nous accepte, mais beaucoup plus encore. Il nous attend, puisque c'est lui qui nous a appelés. Aujourd'hui, à nouveau, nous allons oser lever les yeux vers le Seigneur et nous contemplerons celui qui est le fond de notre être. Que nos cœurs et nos esprits soient disposés pour cette rencontre extraordinaire. Que nos êtres tout entiers soient dans la reconnaissance pour ce dialogue avec notre Dieu et notre Sauveur. Louons Dieu. Amen. Pouvez-vous lever, ceux qui le peuvent, pour chanter le premier spontané.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Donnons à son alléluia.
Bonjour à tous. Bienvenue pour ce temps de culte, à vous qui êtes présents dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ou habitués de ces bancs, sentez-vous accueillis. C'est Olivier qui éclairera pour nous la parole de Dieu en l'absence de notre pasteur Vincent Christeller, qui est en fait en ce moment même à Thonon, en train de mener le culte d'installation du conseil presbytéral, donc de l'église du Chablais, comme nous avons eu ceci il y a 15 jours, je crois. Nous sommes avec beaucoup de cœur, avec la paroisse de Thonon, qui nous est chère particulièrement, qui m'est chère, puisque c'est là où j'ai passé mon enfance. Pour nous accompagner, eh bien, ce sera Andrea à l'orgue, Christine et Yvon Serge à l'accueil. J'ai vu aussi que Nicolas avait pas mal travaillé. C'est un accueil commun. Nous chanterons les spontanés que vous trouverez donc dans le feuillet en première page du recueil des cantiques, ainsi que les cantiques que nous avons affichés au tableau. Que chacun puisse recevoir aujourd'hui, avec faiblesse et humilité, ce que Dieu veut pour lui. Louons Dieu avec les mots d'Antoine Nouis. Louange à toi, Seigneur Dieu, toi qui créa la musique, le chant des oiseaux, le souffle du vent, le murmure des océans, avec les astres et les océans qui n'appartiennent qu'à toi, avec le rythme des saisons, liturgie pour notre temps, avec les musiques et les parfums, les couleurs que tu créas, avec les sources et la terre, les montagnes et le vent, avec tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec l'oreille attentive qui reçoit une confidence, avec l'homme qui se relève et recommence avec courage, avec l'enfant en prière qui découvre la confiance, avec le père qui revient après un long voyage devant tes œuvres, et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec les hommes qui se retrouvent pour célébrer ta victoire, avec l'Église rassemblée qui apprend le silence, avec les jeunes et les vieux qui construisent une histoire, avec tous ceux qui se battent pour que vive l'espérance, nous entonnons une louange. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 56-05. Alors c'est avec, en fait vous avez la musique au 56-04, mais on va chanter les paroles du 56-05. Donc c'est à la page 913 et on chante les quatre strophes.
«
Vous pouvez reprendre place. Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis et règnes à jamais, qui nous accompagne par ton esprit, qui nous attire par ta parole, qui est la parole de vie. Notre péché est de nous séparer de toi. Nous nous sommes fermés à ta parole, en obéissant à d'autres voix que la tienne. C'est pourquoi nous te demandons de remplir nos cœurs de ton esprit, afin que ta présence apaise nos tourments et renouvelle nos vies. Notre péché est de créer la division entre les hommes. Nos actes ont lésé les autres, nos paroles leur ont fait mal, ou se sont cachées derrière le mensonge du silence. C'est pourquoi nous te demandons de guérir les fractures que nous avons causées. Notre péché est de déchirer notre propre être. Nous reconnaissons le vide en nous-mêmes, qu'un désir insatiable essaie en vain de combler. C'est pourquoi nous te demandons d'avoir pitié de nos limites et de nos faiblesses, de nos infidélités et de nos incohérences. Seigneur, reste avec nous et transforme-nous. Amen. Et juste un problème technique, Andrea, il y a vraiment un sifflement permanent. Donc voilà, quand tu ne joues pas, ce serait mieux de fermer les... Parce que là, c'était un peu difficile pour lire pour moi. Voilà, donc nous allons lire en restant assis. De tous mes maux, il me guérit. Nous allons chanter, pardon. Ouais, c'est une chanson. Pour accueillir une parole qui nous pardonne, tel que nous sommes, j'invite ceux qui le peuvent à se lever. Le Seigneur, qui entend notre voix et connaît nos difficultés, ne cesse de nous annoncer son pardon. Quand tu trouves les mots et la voie de la confiance, tu es pardonné. Quand tu acceptes avec courage et lucidité ta faiblesse, tes erreurs, pour ce qui te fait homme, tu es pardonné. Quand tu cherches ce Dieu que tu ne vois pas, tu es pardonné. Quand tu sens que Dieu est plus proche de toi que tu ne l'es de toi-même, tu sais que tu es pardonné. Quand tu entends la parole de Dieu en Jésus-Christ, tu reçois, comme le pain quotidien, la douce joie du pardon. Amen.
Amen.
Et nous pouvons chanter notre reconnaissance avec « Ô ma joie et mon espérance ». Ensemble, quelle est la volonté de Dieu ? Selon les paroles de Jésus dans l'évangile de Marc. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et nous chantons le spontané de ton esprit.
Qu'il est heureux de laisser de côté l'espace d'un instant, toutes les préoccupations et les soucis qui rythment notre quotidien, de prendre le temps de se parler, d'échanger. Qu'il est heureux de laisser jaillir la parole comme l'eau qui ruisselle du torrent, d'offrir des mots qui s'écoulent à l'intérieur de soi. Qu'il est heureux de savoir que l'on est écouté et accueilli en vérité. Qu'il est heureux de prendre le temps de la parole et de prendre le temps de l'écoute. Amen.
Tu dis qu'il n'y avait qu'une seule prière ?
Oui, d'accord.
Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière et qui ont aimé Marc de 32 à 45, eh bien, vous aurez Marc de 32 à 45. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le repêchage. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples qui étaient inquiets et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les 12 disciples avec lui et se mit à leur parler de ce qui allait bientôt lui arriver. Il leur dit, « Écoutez, montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Après 3 jours, il se relèvera de la mort. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses ce que nous te demanderons. » Jésus répond, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit, « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ?» Et ils répondirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. » Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maître. » Et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, Si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, il est venu pour servir. Il est venu pour donner sa vie comme rançon, pour libérer une multitude de gens. Et je vous invite à chanter « Souffle du Dieu vivant ».
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur rassemble les hommes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur n'en fait qu'un seul corps. Au jour de Pentecôte, enflammant les apôtres, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur emplit l'univers. Les
disciples étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, le cracheront sur lui, ils le flagelleront, ils le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il lui dit « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Et Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Alors oui, très clairement, voici 2 hommes qui ne savent pas. Mais qu'ignore-t-il au juste en formulant une telle requête ? Le sens de la mesure, il l'ignore pour sûr. Mais en réalité, ce qu'ils ignorent surtout, c'est la puissance de la motivation qui les guide, la force de l'envie qui les pousse, ce besoin insatiable d'être reconnu, de dominer les autres, cette frénésie de pouvoir, voilà ce qui les anime. Joshua, fin psychologue, va les laisser s'enferrer dans leur logique délétère. Il ne leur dit pas immédiatement à quel point leur demande est au sens premier du terme insensée, c'est-à-dire dépourvue de sens. Depuis des mois, ces 2 hommes suivent Jésus et baignent dans son enseignement, et leurs propos du moment se trouvent à l'exact opposé du dit enseignement. À l'évidence, Jacques et Jean n'ont rien compris et restent aveuglés par leur soif de pouvoir et de reconnaissance. Alors, erreur de casting, résistance insoupçonnée des attitudes mentales antagonistes à la générosité. Jésus tire le tapis sous leurs pieds. Le voici qui relance l'affaire en intuitant que, somme toute, régner à ses côtés ne serait pas inenvisageable, que ce serait finalement qu'une histoire de prix à payer. Et il enchaîne. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Réponse des 2 frères, « Nous le pouvons. » Voilà, ça se passe de commentaires. Quel que soit le prix à payer, leur soif de pouvoir est telle qu'ils sont prêts à mourir de la façon la plus atroce pour la satisfaire. C'est un véritable pacte faustien, à ceci près que leur âme est déjà vendue. Alors Jésus ne tente plus de leur faire découvrir la vérité par un questionnement. Pour clore le débat, il leur annonce leur châtiment à venir et, ironie grinçante, il les informe qu'en dépit du prix exorbitant qu'ils vont payer, ils n'auront cependant aucune certitude en contrepartie. Je reprends le texte du verset 39. Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Ouf, la douche froide. Mais cette cruauté apparente n'est pas gratuite. Elle semble d'ores et déjà dénoncer la conception rétributive de notre relation à la divinité. Divinité dont on attend la ou les récompenses en contrepartie de nos efforts. Bon, à la décharge des deux fils de Zébédée, cette conception était assez commune à l'époque pour finir par s'ancrer définitivement dans la tradition romaine de la chrétienté. Pour ce qui est de la grâce de Dieu donnée a priori, sans condition et à chacun, on devra encore patienter un petit 1500 ans. Et pour revenir au texte, le recentrage théologique introduit par, je cite à nouveau, il ne m'appartient pas de l'accorder, permet de replacer Jésus, qui n'est pas encore Christ, au centre de ses disciples. Il nous conduit ainsi à la séquence suivante. Je reprends le texte au verset 41. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jean et Jacques. De quoi peuvent s'indigner les autres disciples ? De l'audace des deux frères ? D'oser formuler tout haut ce que chacun espère tout bas ? De leur présence d'esprit pour avoir dégainé les premiers ? Ou plus prosaïquement, de la jalousie. Pourquoi eux et pas moi ? Il existe un joli mot pour qualifier la jalousie dans les draperies de la morale. D'aucuns nomment cela l'injustice. Il s'agit d'un mélange de besoins insatiables de reconnaissance et de besoins de posséder. Pourquoi eux et pas moi ? Et du sentiment d'injustice à l'exigence d'égalité, il n'y a qu'un pas. Que Jésus ne franchit pas. Cultivant comme souvent le paradoxe, Jésus n'abolit pas la notion de hiérarchie. Il va plus loin encore. Il inverse le cours traditionnel des rapports humains. Je cite verset 42. Jésus les appela et leur dit : Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Mais rien de tout ça chez nous. Il n'en est pas ainsi parmi vous, au contraire. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, s'il veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Tout le monde n'est pas égal, et sans préciser s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise chose, il admet que certains veuillent être plus grands que les autres. À ceci près que pour Jésus, être grand ne consiste pas à dominer ses congénères. Être grand consiste à les servir. Et Jésus, de conclure théologiquement par la libération des hommes, au prix d'une rançon, et le mot a un poids énorme, au prix d'une rançon dont le prix ultime, sa mort et son supplice, est payé pour une fois pour toutes au bénéfice de l'humanité tout entière. Je cite verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour la multitude. Qui dit rançon dit rachat de la liberté d'un otage. Mais comme l'otage du malin est l'humanité tout entière, évidemment, le montant de la rançon est le plus élevé qui soit. Donc la mort de Jésus paye notre dette au malin, lequel relâche provisoirement ses proies. Provisoirement parce que ça n'est jamais gagné. La liberté que nous donne Yeshua par son sacrifice ultime exige que nous la protégions à chaque instant. À l'instar de Job, qui après toutes ses souffrances, se trouve enfin justifié par Dieu lorsque sa main droite, celle qui porte le glaive, se dresse pour combattre, nous devons œuvrer pour conserver cette liberté. Mais de quelle liberté parle-t-on ? En fait, c'est assez simple. Jésus annonce le royaume. Puis il se sacrifie pour nous et ce don ultime nous offre les portes du royaume. Par la suite, Luc nous dit que ce royaume est entos iomon, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. C'est donc que le royaume de Dieu est déjà là. On peut laisser la fin des temps à la fin des temps. C'est quand même mieux d'aimer les morts quand ils sont vivants. Bien, maintenant nous entrons dans le royaume. Et là, que comprenons-nous? Avec l'expérience, force est de constater que c'est à nous de le construire, uniquement à nous. Patiemment, jour après jour. Alors comment peut-on s'y prendre? Eh bien, Jésus nous donne le mode d'emploi. C'est en servant les humains autour de nous, en servant chacun avec le peu de lumière que Dieu nous donne. Dans cette perspective, être le premier, être le dernier devient vide de sens. Loin de l'orgueil, du désir de pouvoir, de la jalousie, mais loin aussi de l'humilité exagérée, ou pire encore de la fausse humilité, pourquoi ne pas envisager notre place tout simplement à notre place? Juste à notre place, ou plutôt à notre juste place, devant l'Éternel et devant les hommes. Ni le premier de tous, ni leur esclave. Pour préciser ce point de vue, permettez-moi de conclure sur deux citations d'un empereur romain de la famille des Antonins, féru de philosophie stoïcienne et passé à la postérité sous le nom de Marc Aurèle. Ces citations sont tirées de son petit opuscule intitulé « Pensée pour moi-même ». Seras-tu donc un jour, ô mon âme, bonne, simple, nue, et plus apparente que le corps qui t'entoure? Seras-tu donc un jour à même de goûter la disposition qui te porte à aimer et à chérir? Seras-tu donc un jour satisfaite, sans besoin, sans désir, sans avoir à attendre ton plaisir de ce qui est animé ou inanimé? Sans avoir, pour le faire durer davantage, à attendre ton plaisir du temps, d'un lieu, d'une contrée, d'un air plus favorable et d'un meilleur accord entre les hommes? Mais te contenteras-tu de ta condition présente? Te réjouiras-tu de tout ce qui présentement arrive? Te persuaderas-tu que tout est bien pour toi, que tout te vient des dieux, bon, là ils en avaient plusieurs, et que tout ce qu'il leur plaît de t'envoyer, que tout ce qu'ils auront à t'assigner se fait pour le salut de l'être parfait, bon, juste, beau, qui engendre tout, retient tout, contient et comprend tout ce qui se dissout pour donner naissance à d'autres choses semblables. Seras-tu donc un jour, tel que tu puisses vivre dans la société des dieux et des hommes, sans te plaindre d'eux, et sans leur donner de sujet de t'accuser? Toute âme, dit-on, est privée malgré elle de la vérité. Bon, là, il fait référence à Platon. Il en est ainsi de la justice, de la tempérance, de l'aménité et de toutes les vertus analogues. Il est donc très nécessaire de te souvenir continuellement de cela, car tu seras plus indulgent envers tous. Nous voici bien loin des prétentions infantiles de Jacques et de Jean. Prétentions toujours vivaces, en dépit de l'enseignement de Jésus. La formule du prophète, qui consiste à être le premier en étant l'esclave de tous, est suffisamment caricaturale, suffisamment provocatrice, pour ouvrir la voie à une approche différente, une approche non hiérarchique des rapports humains et de la relation à Dieu. On peut aussi se reporter à l'évangile du même Marc en 10.3 ou encore à celui de Matthieu en 20.16. Ces passages font ainsi mention que les derniers seront les premiers. Mais là encore, au-delà des formules choc, au-delà des apparences, ce que sanctifie le divin dans ces versets, eh bien, l'importance du sacrifice qui lui est offert, le sacrifice de l'abandon de nos possessions terrestres et de nos liens familiaux pour suivre Jésus en vue du royaume. L'Éternel ne justifie pas l'homme par sa position au sein du groupe ou au sein de la société. Ni premier, ni esclave, juste à notre place, à notre juste place. Si la bonne nouvelle est bienveillante, elle demande aussi du labeur, pour aller à l'essentiel, au-delà des apparences. C'est du boulot. Amen.
Thank you.
Nous pouvons nous lever pour chanter. Alors, ô Jésus-Christ, tu nous appelles. C'est pas ô Jésus, tu nous appelles. Vous verrez, c'est pas le même air, mais c'est un air que nous connaissons bien. Donc c'est le 2404 et nous chantons les trois strophes. Qu'il faut s'asseoir, mais je n'ai pas marqué, donc. Alors nous allons confesser notre foi d'après un texte d'Angela Gelbert. En dépit du désespoir, espérer. En dépit de la haine, aimer. En dépit de l'infidélité, faire confiance. En dépit des ténèbres, croire à la lumière. En dépit du mal, croire au bien. En dépit du mensonge, croire à la vérité. En dépit de la souffrance, croire à la joie. En dépit du chaos, croire à l'harmonie. En dépit de l'absurde, croire au sens. En dépit de la trahison, croire à l'idéal. En dépit de la cendre, croire à la flamme. En dépit de la chair, croire à l'âme. En dépit de la mort, croire à la vie. En dépit du temps, croire à l'éternité. En dépit du fini, croire à l'infini. En dépit de soi, croire à l'autre. En dépit de la folie humaine, croire à la sagesse divine. En dépit de la sagesse de l'homme, croire à la folie de Dieu. Amen. Amen. Mon seul abri, c'est toi, le spontané. Je m'appuie sur toi et Vous pouvez reprendre place. Voici le moment de l'offrande. Mettons en commun librement notre argent pour que tous puissent toujours être accueillis gratuitement et chaleureusement en ce lieu. Amen. Seigneur, toi qui as suscité en tout temps des témoins crédibles et fidèles à ta parole, accorde-nous à notre tour de faire bon usage des dons en argent, en temps, en talents qui font vivre ton Église, pour que ton Évangile continue son œuvre de transformation des cœurs dans le monde. Amen. Alors, voici le temps des annonces. Déjà, merci à Olivier pour ta prédication. Moi, je n'ai pas eu le sentiment, j'ai eu la redite, mais je n'ai pas eu le sentiment que c'était vraiment une redite. C'était, enfin, je ne sais pas, vous discuterez avec lui pour lui dire, mais il me semble que ce n'était pas vraiment gênant que ce soit deux fois le même texte. Quand j'ai vu que c'était, quand j'ai entendu dimanche dernier Vincent dire le texte, j'ai dit « Oh !» Mais finalement, ça s'est très bien passé. Olivier choisit le texte sur lequel il va faire sa prédication. Merci Andrea pour ta musique. Et puis, je vais peut-être parler un petit peu de l'orgue, hein, parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'étais extrêmement gêné pendant que je lisais. Et cet orgue, il est un petit peu malade, même très malade en fait. Il y a une grosse réparation qui va être faite. Elle va avoir lieu en janvier. Donc, nous allons accueillir la factrice d'orgue et son collaborateur. En fait, ils ont switché, c'est-à-dire que c'est son patron qui est devenu maintenant son ouvrier. C'est une belle histoire. Et donc, nous allons les accueillir en janvier. Ils seront logés, enfin, du moins, uniquement la factrice, parce que le facteur n'habite pas très loin. Sera logé chez David Koechlin, hein, qui a bien voulu prêter son logement pour diminuer les frais. On n'a peut-être pas encore commencé à chercher, mais je pense qu'on va trouver des paroissiens qui leur apporteront leur repas. Tout ça en vue de diminuer la facture qui aurait été beaucoup plus élevée s'il y avait eu des frais, vous en doutez. Donc, et c'est aussi pour vous dire qu'étant donné que la facture est très importante, si certains d'entre vous souhaitent apporter leur contribution pour le sifflement de l'orgue, qui est extrêmement désagréable, particulièrement quand nous avons des appareils auditifs. Enfin, je ne sais pas si je suis le seul, mais en tout cas, moi, c'est terrible. Donc voilà, vous êtes libre d'augmenter votre don. Il ne faut pas donner le don à la place. Vous l'augmentez, sinon ça ne sert à rien. C'est inutile. Continuez comme d'habitude. Donc voilà. Merci à Christine, Yvon, Serge d'avoir assuré l'accueil. Merci à la famille Friedli, parce que leur bouquet, le bouquet qui vient de la sépulture de Lucienne, ben, il est toujours là. Il est encore très joli. Donc voilà, et merci à tous quand même, parce que sans vous, il n'y a pas de culte, hein, c'est sûr. Nous aurons, alors, sauf si je me trompe, Pierre, tu me diras, mardi, pour les leftos, ou en tout cas ceux qui souhaitent venir partager un bon moment, un moment de prière, hein, c'est à 7h, ici même, à 7h le mardi matin. Et puis vous pouvez rester toute la journée dans le culte jusqu'au soir où vous chanterez à 19h15. Ou bien vous rentrez chez vous, c'est comme vous voulez. Et puis il y a un groupe de prière mercredi à 18h au temple. Voilà. Alors moi, je n'ai rien repéré d'autre. Si, quand même, la catéchèse adulte le 7 novembre, ce n'est pas encore cette semaine, mais ça se rapproche. C'est en visioconférence à partir de 20h. Donc, il faut contacter le pasteur pour connaître les liens de la visioconférence. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, Pierre ? Non ? Voilà, juste pour redire que nous sommes en pensée avec notre pasteur et la paroisse du Chablais qui est en train d'installer son nouveau conseil, comme nous l'avons fait il y a 15 jours. Et nous allons entrer dans la prière d'intercession. Seigneur, je reste avec toi, même si le doute étale ses mauvais brouillards sur les chemins de mon existence. Je reste avec toi, même si la souffrance plante en moi ses crocs d'absurdité et me fait crier à ton absence. Je reste avec toi, même si la danse de l'existence m'emporte dans les tourbillons des apparences humaines, superficielles et illusoires. Je reste avec toi, même si d'autres voix, tellement séduisantes, viennent chanter à mon cœur et solliciter mon adoration. Seigneur, je reste avec toi, par fidélité, par promesse d'amour, et parce que toi, Seigneur, tu es fidèle toujours à l'amour promis. Et maintenant, unis à tous nos frères chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec ton Fils Jésus-Christ, nous te disons, notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que nous t'appartiennent le règne et la puissance de la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction de la part du Seigneur. Avant de nous quitter, prions le Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à m'accorder du temps. Du temps pour respirer et goûter au bonheur d'exister. Du temps pour m'asseoir et me reposer. Du temps pour contempler et réfléchir. Du temps pour parler et surtout écouter. Apprends-moi, Seigneur, à prendre du temps pour toi. Du temps pour m'imprégner de silence et de paix. Du temps pour déposer devant toi mes soucis, mes doutes, mes questions et mes espérances, du temps pour me laisser pénétrer par ta parole, du temps pour prier. Comme Marie assise à tes pieds, apprends-moi, Seigneur, à choisir la meilleure part, celle du temps que je t'offre, que j'offre aux autres et à moi-même. Amen.
Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Amen.
Et nous chantons le dernier spontané, Tu nous appelles à t'aimer.
Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Soyez signe d'amour, de paix.
Et nous pouvons nous rasseoir pour écouter le dernier morceau qui s'appelle morceau de sortie, mais qu'on peut écouter. Généralement, c'est très beau. Dimanche à tous.